chers auditeurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir. Rendez-vous pour ce faire sur la page d'accueil de notre site, dans la rubrique Soutenez-nous, à partir donc de notre site storiavoce.com. Je suis très heureux de recevoir à ce micro pour une nouvelle série de cours d'histoire Dimitri Tillois d'Ambrosi. Dimitri, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nos auditeurs fidèles vous connaissent peut-être parce que je vous ai reçu à ce micro pour l'émission Les Grands Entretiens et nous avons évoqué votre ouvrage L'Empire Romain par le menu paru chez Arquet Éditions. Alors, Dimitri, vous êtes professeur en lycée, doctorant à Lyon 3, donc, et vous êtes spécialiste d'histoire romaine. Et nous avons décidé de réaliser deux séries d'émissions consacrées donc au programme de collège et de lycée sur la romanité. Et la première émission sera consacrée, bien évidemment, à tout seigneur, tout honneur, à l'empereur lui-même, l'empereur romain, pouvoir et puissance. Est-ce que, Dimitri, pour nos auditeurs, vous pourriez nous dire en quelques mots quels ont été les différents régimes politiques que Rome a connus ?
Pour commencer, ça me semble important en effet de rappeler que Rome n'a pas toujours été un empire et Rome a connu trois grands régimes politiques, trois grandes périodes qui sont les suivantes. D'abord, une période de royauté entre 753, qui est évidemment la date de la fondation légendaire de Rome par Romulus, jusqu'en 509 avant Jésus-Christ, qui est la date d'avènement de la République et de renversement de la monarchie, bon, même si cette date est probablement plus symbolique que réelle. Ensuite, la République, qui dure jusqu'en 31 avant Jésus-Christ, et même 27 avant Jésus-Christ, on expliquera un petit peu ce qui se passe à cette période-là. Et enfin, donc la période de l'Empire, de 27 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'avènement d'Auguste, jusqu'en 476 après Jésus-Christ, si l'on considère l'Empire d'Occident. Cet empire lui-même est divisé en trois grandes périodes. Le Haut Empire, qui est la période sur laquelle nous allons nous concentrer, et ensuite une période de troubles qu'on appelle l'anarchie militaire ou la crise du IIIe siècle, et enfin l'époque tardive jusqu'à la chute de Rome.
Comment la République a-t-elle fini par disparaître ?
Pour comprendre comment la République a fini par disparaître et comment l'Empire est né, il faut reprendre les événements qui se déroulent au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le 1er siècle avant Jésus-Christ est une période de troubles et de guerres civiles que l'on peut expliquer par de multiples raisons, mais une des plus importantes, c'est les ambitions des impératores. Les impératores, ce sont de grands généraux, des hommes politiques évidemment, qui sont très ambitieux. Parmi ceux-ci, on peut compter Marius, Sylla par exemple, et notamment César évidemment au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui affronte d'ailleurs un autre impérateur, Pompée. César finit, après la guerre des Gaules, par réussir à devenir dictateur à vie, et les ambitions qu'il affiche, trop ostentatoires, on l'accuse finalement de vouloir restaurer une royauté, un régime qui est honni par les Romains, et bien conduit à sa perte, et de cette chute, de cet assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ, un personnage va émerger, il s'agit d'Octave, le futur Auguste.
Je reviens un peu sur la première question, sur les différents régimes politiques que Rome a connus. Est-ce que pour notre monde, pour notre humanité, finalement, la romanité, dans les limites chronologiques que vous les avez données, inclut tous les types de régimes que l'on a pu voir sur la Terre, mais dans les civilisations?
Alors, au fil de l'histoire de Rome, on trouve en effet différents régimes politiques. Il y a la royauté, la république et l'empire. Il faut faire attention cependant à ne pas se méprendre. Par exemple, la république n'est pas une démocratie, au sens où on l'entend. Il s'agit d'un régime oligarchique où l'aristocratie sénatoriale, en l'occurrence, exerce la primauté en autorité, mais également dans l'exercice du pouvoir. De même que l'empereur, on le verra un petit peu après, ne règne pas forcément seul, il doit composer avec le Sénat et également l'armée, qui exerce un poids important. En tout cas, en effet, on peut trouver une succession de régimes qui s'affirmeront également à d'autres époques.
Et ceci, quelles que soient les civilisations. Alors revenons à Auguste. Comment Auguste a fondé ce nouveau régime ?
Tout à l'heure, on évoquait donc les ambitions de Jules César au lendemain de la guerre des Gaules, qui met en place un pouvoir de plus en plus personnel et qui est assassiné donc le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. À la suite de cet assassinat, les successeurs de César, Marc-Antoine qui est son général fidèle, mais qui n'est pas successeur et héritier désigné, et Octave, qui lui est petit-neveu de César, eh bien s'affrontent assez rapidement, ils vont entrer en opposition assez vite. Dans un premier temps, ils se débarrassent d'abord des assassins de César, des ennemis de César, pour finalement se retrouver face à face, et l'épisode décisif qui met un terme à la République et qui marque le début d'une nouvelle ère, c'est la bataille d'Actium en septembre 31 avant Jésus-Christ. Actium se trouve au large de la Grèce, et durant cette bataille décisive, les forces d'Octave, et en face celles de Marc-Antoine qui s'allie à Cléopâtre, vont s'affronter. Marc-Antoine est défait, Cléopâtre également, et Octave se retrouve seul maître de l'Empire. Donc c'est vraiment un épisode tout à fait fondateur pour la naissance de l'Empire. Octave aurait pu conserver ce pouvoir de façon autoritaire, mais il va agir de façon assez fine, puisque en 27 avant Jésus-Christ, il annonce au Sénat qu'il renonce à ses pouvoirs. C'est évidemment une manipulation calculée à l'avance, puisque Octave a acquis à sa cause tous les sénateurs qui sont présents, ceux qui sont ses ennemis ont été éliminés, et donc le Sénat le supplie de conserver ses pouvoirs, de conserver même les pleins pouvoirs. Pourquoi ? Parce que Octave est celui qui a ramené la paix dans l'Empire, après, il faut vraiment le mettre en perspective pour le comprendre, après quasiment un siècle de lutte intestine.
Les changements de pouvoir de l'époque romaine sont des changements liés à la fois au monde militaire, mais aussi à ce que vous appelez les querelles intestines.
Oui, tout à fait. Le pouvoir est de plus en plus lié à celui des généraux, donc qui a un caractère militaire qui est indéniable. Et le soutien de l'armée, justement, est très important. On le verra tout à l'heure avec les différents pouvoirs de l'empereur. C'est une dimension qui est absolument fondamentale.
Précisément, quels sont les différents pouvoirs dont dispose l'empereur ?
Alors, ce qui est fondamental de comprendre en premier lieu, c'est que Octave n'invente aucun pouvoir. Ce n'est pas un seul pouvoir tout en bloc, en quelque sorte. Il s'agit en fait d'une accumulation de différentes distinctions, de différents pouvoirs qui existaient déjà durant l'époque républicaine. Et tout cela se déroule en 27 avant Jésus-Christ, comme on l'a dit, et durant les années qui suivent. En 27 avant Jésus-Christ, donc on l'a dit, Octave se présente devant le Sénat, ses pouvoirs lui sont confirmés. Octave, par la même occasion, se voit accorder un nouveau titre, le titre d'Auguste, qui deviendra le nom sous lequel on le connaît. Ce titre renvoie déjà à une première dimension de ce pouvoir, qui est une dimension religieuse. Auguste signifie celui qui est augmenté, on pourrait le traduire ainsi littéralement, on pourrait interpréter cela en le traduisant de la façon suivante, celui qui est protégé par les dieux. Et de fait, Auguste est également grand pontife, il est le chef de la religion romaine. Auguste dispose également d'un pouvoir politique, évidemment, qui repose sur une magistrature qui existait déjà à l'époque républicaine, qui est le consulat. Le consul était le plus haut magistrat de la République romaine, et chaque année, Auguste va être renouvelé au consulat. Sauf que les contestations commencent à émerger au Sénat, et c'est pourquoi il abandonne ce pouvoir au profit de la puissance tribunicienne. Alors il s'agit du pouvoir du tribun de la plèbe. Le tribun de la plèbe, c'est un magistrat qui n'appartient pas à l'ordre sénatorial, ce n'est pas un aristocrate, et il avait pour fonction, durant la République, de défendre les intérêts du peuple. Et pourquoi est-ce que Auguste choisit de prendre ce pouvoir ? Le tribun de la plèbe avait la possibilité de poser son veto aux décisions du Sénat, et également de convoquer le Sénat. Ce qui fait que Auguste contrôle le Sénat, qui était, il faut le rappeler, l'institution la plus prestigieuse de la République romaine. Enfin, dernier pouvoir absolument fondamental, le pouvoir militaire qu'on évoquait, Auguste détient ce qu'on appelle l'imperium. Il est impérator. L'imperium existait déjà durant l'époque républicaine. Il s'agit d'un pouvoir de commandement confié par le Sénat, mais qui à l'origine était limité dans le temps et également comportait un nombre limité de légions qui étaient confiées au général. Sauf que là, il s'agit d'un imperium illimité. Auguste a le pouvoir sur toutes les légions de l'Empire de façon permanente.
Question peut-être un peu plus complexe. Vous parlez de peuple. Quelle était la signification de ce mot peuple ? Est-ce que c'était une signification large ? Est-ce qu'on ne parle que des citoyens romains ? Est-ce qu'on parle du peuple de Rome ? Est-ce qu'on parle des habitants de l'Empire de manière générale ?
Alors quand on parle de peuple au niveau institutionnel, il y a un sens précis, c'est le populus en latin, il s'agit du corps des citoyens romains. À l'époque républicaine, on connaît tous la fameuse devise SPQR, Senatus Populusque Romanus, le Sénat est le peuple de Rome, et cette devise en fait indique où se trouve le pouvoir à l'époque républicaine? Il y a le Sénat, et les magistrats également, qui vont détenir des charges pendant un an, et de l'autre côté, le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, qui votent au sein des comices. Mmh. Les comices, ce sont les assemblées du peuple, elles sont au nombre de trois, comices tribut, centuriates et curiates. Elles désignent chacun un magistrat différent, elles ont des prérogatives particulières. Et donc, c'est là, en fait, que le populus hein, exerçait sous la République son pouvoir.
Mmh. Donc, il faut prendre le mot peuple dans un sens très restreint.
Oui, en effet, si on considère le populus au sens juridique du terme, c'est-à-dire bon, l'ensemble des citoyens, une certaine frange de la population, en effet, est exclue de la citoyenneté.
Mmh. Donc ça veut dire que ces gens n'ont pas de, je vais pas dire de raison d'être, mais de quel est leur statut? Est-ce qu'ils entrent malgré tout dans le scope juridique de l'Empire?
Alors on le verra également par rapport à la citoyenneté. Le droit romain et la société, la mentalité romaine en général, a une tendance à vouloir vouloir inculquer à chacun une place et également avoir une position définie par rapport au droit. Et en effet, ceux qui ne sont pas citoyens sont jugés étrangers au peuple romain, on les appelle des pérégrins, et leur statut juridique hein, est clairement encadré par le droit romain.
Mmh. Alors revenons au pouvoir impérial, on ne peut penser ces sociétés sans le fait religieux, ce sont des sociétés qui sont religieuses. Quelle est la place du culte impérial dans la pratique du pouvoir? Est-ce que ce culte impérial possède une dimension religieuse telle que l'auront par exemple les rois de France, mais aussi l'empereur romain d'Orient, dont la fonction ne va être cesser d'être sacralisée?
Alors le culte impérial exerce un rôle fondamental, il est même un des socles du pouvoir. Et même, je dirais, c'est peut-être le lien le plus fort qui existe entre l'empereur et ses sujets, non seulement à Rome dans la capitale, mais aussi dans tout l'Empire. Il faut revenir un petit peu sur sa création et comprendre de quoi il s'agit précisément. Les origines du culte impérial se trouvent dans un événement précis, qui est la mort et la divinisation de César. César, on l'a dit, meurt en 44 avant Jésus-Christ, et ensuite, Octave, eh bien, avec l'accord du Sénat, va pouvoir faire diviniser César. Et donc, c'est une des premières étapes dans la constitution du culte impérial. Mais il y a une nuance tout de même importante à apporter. C'est qu'en fait, l'empereur n'est jamais vénéré comme un dieu de son vivant. Ce ne sont que les empereurs morts qui peuvent recevoir ce que l'on appelle l'apothéose, qui est une cérémonie qui inscrit l'empereur parmi les dieux, et c'est à ce moment-là qu'on le considère comme divus. Malgré tout, de son vivant, Auguste réussit à trouver un subterfuge, en quelque sorte, pour être honoré indirectement. Il permet aux habitants de l'Empire de vénérer ce que l'on appelle son génie, une sorte d'esprit protecteur en quelque sorte, et son humaine, une force, une énergie vitale en quelque sorte, qui vont être vénérés notamment au carrefour des rues dans les villes. Au carrefour, on vénère les divinités qu'on appelle les divinités lares. Il s'agit de divinités protectrices, de divinités domestiques, et donc ces divinités qui se trouvent au carrefour des rues, qui protègent du mauvais œil par exemple, eh bien vont être associées à ces entités liées à l'empereur. Donc c'est une façon assez subtile pour l'empereur de se faire honorer au niveau religieux indirectement et également d'être présent finalement dans le maillage de la ville.
Alors les rois de France avaient des limites à leur pouvoir, les lois fondamentales du royaume, une forme de dimension morale également. Est-ce que il existe pour l'empereur romain des limites à ce pouvoir?
Alors la question est importante, puisqu'on a l'impression souvent d'un empereur tout-puissant au pouvoir illimité. Malgré tout, il me semble que l'on peut mettre en évidence quelques limites. Une des premières limites, une première fragilité du pouvoir, c'est tout d'abord qu'il n'y a pas de règles successorales clairement établies. En effet, quand on observe l'histoire du pouvoir impérial, on observe différents modèles. Soit il s'agit du fils qui va régner. Donc là, on a un modèle en lignage. C'est le cas, par exemple, avec Vespasien et ses deux fils Titus et Domitien qui vont lui succéder. Ou bien l'empereur adopte son héritier. C'est le cas d'Auguste et de Tibère, par exemple. C'est le cas d'Adrien et d'Antonin. Ou alors, l'armée, et on va y venir, hein, l'armée peut proclamer, ou les prétoriens d'ailleurs, peuvent proclamer leur candidat à l'Empire. Et donc, cette absence de règles, dans des moments où l'héritier n'était pas choisi, a pu être porteur hein, de crises parfois assez graves. Ensuite, donc deuxième point, l'armée, comme je disais, exerce un poids très très important. Il est essentiel pour l'empereur, dès le début de son règne, de s'attacher à la fidélité de l'armée. Les soldats attendent que l'empereur verse ce que l'on appelle un donativum. Il s'agit d'une somme d'argent qui est donnée aux soldats, une forme de gratification en quelque sorte, hein, pour marquer l'avènement au pouvoir, et montrer que l'empereur se montrera attentif évidemment au sort de ses soldats. Mais si jamais l'empereur déçoit les troupes, ou bien si un général un peu trop ambitieux s'affirme, l'empereur peut être renversé, voire assassiné. De même que les gardes prétoriens, c'est le cas avec Caligula par exemple, hein, les gardes prétoriens, eux aussi, parfois, peuvent avoir un rôle dans l'Empire. Donc le poids des armes est extrêmement fort hein, face au pouvoir de l'empereur. Et puis, dernier point, même si on l'a dit, l'empereur contrôle le Sénat, malgré tout, il faut veiller à ne pas aller trop à son encontre et ne pas aller jusqu'à l'humilier parfois comme l'ont fait certains empereurs, puisque après la mort de l'empereur, le Sénat peut décider d'adopter ce que l'on appelle la damnatio memoriae, littéralement la condamnation de la mémoire, qui consiste en fait à effacer le nom et les représentations de l'empereur, des inscriptions, des reliefs, des monnaies, des statues, etc., pour l'oublier en quelque sorte. Et donc évidemment, cela interdit toute divinisation, qui n'est pas automatique pour chaque empereur.
Eh bien, merci beaucoup Dimitri Tillois d'Ambrosi pour cette présentation des pouvoirs et de la puissance de l'empereur romain. Merci, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire.